Fabrice a déjà dit que c'était le dimanche de la mission et cette prédication a un lien avec la mission. Mais partons de la Bible, partons du texte de Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 1. Donc, voici ce que Paul écrit aux chrétiens de la ville de Corinthe. Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Ils sont allés jusqu'à la limite de leurs moyens et même au-delà, j'en suis témoin, spontanément. Et avec une vive insistance, ils nous ont demandé la faveur de prendre part à l'assistance destinée à ceux qui, à Jérusalem, appartiennent à Dieu. Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Aussi avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité qu'il avait si bien mise en train. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité. Ce n'est pas un ordre que je vous donne, mais en mentionnant le zèle que d'autres ont déployé, je cherche à éprouver l'authenticité de votre amour. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est donc un simple avis que je vous donne et c'est ce qui vous convient. En effet, n'avez-vous pas été les premiers dès l'an dernier, non seulement à agir, mais à prendre l'initiative de ce projet ? Achevez donc à présent de le réaliser, menez-le à terme, selon vos moyens, avec le même empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans les circonstances présentes, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité, suivant cette parole de l'Écriture. Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'en avait pas de trop, et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Jusqu'ici, notre lecture. Pour commencer, essayons de comprendre ce texte. Parce que là, on arrive dans une situation quand même bien particulière. Hein. Ce ne sont pas de généralités dont parle l'apôtre Paul, mais d'une situation bien particulière, celle des églises du 1er siècle. On arrive à comprendre avec les actes des apôtres, avec les différentes lettres qui sont rassemblées dans le Nouveau Testament, qu'il y avait des églises autour de la Méditerranée et qu'elles formaient un réseau d'églises. Réseau, et c'est les apôtres qui faisaient le lien entre ces différentes églises. Déjà, les apôtres comme Paul allaient implanter ces églises dans les différentes villes. Et puis, ensuite, ils tournent entre ces différentes villes. Hein. On a tendance à penser qu'il n'y a que depuis le XXe siècle qu'on est capable de se déplacer. Non, à l'époque, au 1er siècle, ils étaient sur la route. Les Romains avaient fait de belles routes et pouvaient comme ça visiter les différentes villes. Ils tournent, ils encouragent les églises qui grandissent, ils corrigent celles qui prennent de mauvaises directions. Bref, ils font vivre le réseau et ils donnent des nouvelles des églises les unes aux autres. On n'est pas église tout seul, mais on est église avec d'autres églises qui vivent la même chose, en relation les uns avec les autres. Et on comprend, en lisant la correspondance, que l'église de Jérusalem était dans le besoin. Il y avait un besoin matériel important. Jérusalem, c'est l'église historique. C'est là que tout a commencé, à la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu, que des centaines, des milliers ont été touchés et que cette église s'est formée. Vous le savez, on a lu plusieurs fois ce chapitre, le chapitre 2 du livre des Actes à partir du verset 42. C'est un passage stimulant et j'aime le lire et le relire, donc vous l'avez eu plusieurs fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans cette époque-là, il est écrit que les chrétiens vendaient leurs biens, vendaient leurs propriétés et mettaient tout en commun. Est-ce que c'est pour cela qu'ils ont du mal aujourd'hui, financièrement? Est-ce que c'est parce qu'ils ont tout vendu? Est-ce que, du coup, quand la famine est venue, ils se sont trouvés dans des difficultés parce qu'ils n'avaient plus de propriété? On ne sait pas, on n'a pas l'analyse économique de leurs difficultés. En tout cas, ce sont eux, cette église de départ, qui a vécu avec tant de générosité les uns après les autres, qui aujourd'hui se trouvent dans la difficulté matérielle. Et on comprend qu'il y a un besoin important parce que donc une collecte a été mise en place dans les différentes églises. Et puis, ça occupe beaucoup Paul et d'autres. Hein, on voit aussi là Tite est cité. Et Paul en parle dans sa lettre aux Romains. Il en parle une première fois aux Corinthiens. Il en reparle ici. Vraiment, c'est quelque chose qui a occupé, je pense, pendant plusieurs années, les églises. Et ce texte invite les Corinthiens à la générosité. C'est un texte qui invite à la générosité et qui développe un argumentaire pour la générosité et la générosité matérielle très particulièrement. Et en préparant ce culte sur la mission, j'ai lu ce texte et je me suis dit qu'il y avait un lien avec la mission parce que la mission, c'est une histoire de générosité. Alors, qu'est-ce que c'est que la mission? Il y a plusieurs sortes de missions, je crois. Il y a la mission qui est donnée à tous les chrétiens, vous la connaissez, faire des disciples, faire de toutes les nations des disciples, dans le monde entier. Et le thème est repris. Ça, c'est le verset de la fin de Matthieu. Le thème est repris au tout début d'Actes des Apôtres, où Luc écrit, l'auteur d'Actes des Apôtres, écrit dans la bouche de Jésus, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Donc, faire des disciples dans le monde entier, mais là où je suis, un peu plus loin, et jusqu'au bout du monde. Et ça, c'est la mission de tout disciple. Mais le mot mission a un deuxième sens. Dans l'usage qu'on en fait, la mission désigne ce qu'on fait au loin. Là où on envoie des missionnaires et où on implante une mission. Donc, il y a deux sens. La mission qui est la nôtre, de faire des disciples, et la mission qui est implantée au-delà des frontières, au moins, celle qu'on va mettre pour apporter l'évangile dans un lieu moins exposé à l'évangile. Et aujourd'hui, on a ce terme pour en parler qui est la mission intégrale. Parce que aujourd'hui, quand on veut implanter une mission, on n'est pas là seulement pour annoncer l'évangile et puis que les gens se débrouillent. On veut aussi leur apporter du soulagement, dans leurs problèmes matériels, dans leurs problèmes de santé, dans leurs problèmes économiques. Il y a eu un grand débat dans les milieux évangéliques autour de cette question. Est-ce que la mission, c'est faire du bien au peuple? Ou est-ce que la mission, c'est annoncer l'évangile? Et aujourd'hui, je crois que les théologiens ont bien travaillé pour dire que l'un n'exclut pas l'autre. Et c'est ça la mission intégrale. Faire les deux, annoncer l'évangile, mais prendre soin des gens. Et tout simplement comme Jésus l'a fait. Quand vous regardez dans les évangiles, Jésus passe un temps considérable à guérir des gens, à restaurer des personnes qui sont brisées dans leur situation. Et quand Jean-Baptiste, en prison, est dans le doute, et vient lui demander « Est-ce que c'est toi le Messie ou est-ce qu'on doit en attendre un autre ?» Jésus lui fait dire cette parole « Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Il ne dissocie pas le bien qui est fait aux personnes et la bonne nouvelle qui est annoncé. Donc voilà ce que c'est. La mission, au loin, apporter l'évangile en parole, mais aussi en acte. Et une constante avec la mission, c'est qu'elle a des besoins. Parce que on va implanter l'évangile dans un milieu où il est peu implanté, il y a peu de ressources matérielles à ce besoin-là. Et la mission a besoin d'être soutenue par d'autres églises, par d'autres chrétiens ailleurs. Comme cette situation où l'église de Jérusalem ne pouvait compter que sur d'autres chrétiens ailleurs pour les sortir de ces difficultés matérielles. Et dans ce texte, on va revenir à notre texte, Paul développe un argumentaire pour la générosité. Et j'ai relevé quatre raisons que Paul donne pour être généreux, pour inviter son auditoire à être généreux. Vous pouvez en trouver d'autres, et en particulier si vous continuez à lire le passage, parce que on a lu la moitié du chapitre 8, mais il continue sur la fin du chapitre 8 et sur le chapitre 9 sur cette question. Mais voilà. Quatre raisons. Et la première raison pour être généreux, la première raison que j'ai trouvée m'a surprise, je dois vous l'avouer. La première raison que Paul donne, c'est parce que d'autres le font. Faites-le parce que d'autres le font. On trouve ça au tout début du texte. Nous voulons vous faire connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont voulu participer. En Macédoine, il y a des chrétiens qui connaissent eux-mêmes des difficultés, mais ils ont voulu donner, même si ce n'était pas très riche. C'est eux qui ont demandé de participer. Et je vous le disais, ça m'a surpris de trouver ça là, parce que c'est un argument peu utilisé dans l'Église. Faites ça parce que les autres le font. On essaye de trouver des raisons intrinsèques, d'expliquer par la théologie, etc. Et là, il y a Paul met en place cette espèce d'émulation. Vos frères en Macédoine font des belles choses. Faites pareil. Faites comme eux. Quelque part, il y a ce message qui dit « On a besoin de tout le monde pour faire cette œuvre, pour faire cette œuvre de solidarité, pour soutenir les chrétiens démunis. » Et si tout le monde y prend part, tout autour de la Méditerranée, alors on pourra changer le quotidien de ses frères dans le besoin. En tant qu'Église, nous sommes un corps. Et si on se met ensemble, on peut arriver à faire des choses que seul, ce serait que des gouttes d'eau dans l'océan. Donc voilà la première raison que j'ai trouvée. La deuxième raison, plus basé sur l'intellect, c'est qu'ils appartiennent à Dieu. Au verset 5. Et quand je dis appartenir à Dieu, c'est pas une vue de l'esprit, mais Paul le prend vraiment au sujet, au sens premier du terme, celui de la possession. Vous vous êtes offert à Dieu, il vous possède, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Ils se sont donnés à Dieu. Ça, c'est des choses qu'on dit dans des confessions de foi. On le connaît, on le confesse, on le prie, on le chante. Hein. On a de beaux cantiques avec des belles musiques entraînantes, mais les paroles sont aussi très engageantes. Je ne sais pas si on y prête toujours attention. On le dit qu'on se donne à Dieu, mais ça a des applications pratiques. Si je me donne à Dieu, je ne m'appartiens plus à moi-même. Je ne suis plus ma propre propriété, je ne fais plus ce que j'ai envie, mais je dois demander à celui à qui me suis offert, à mon propriétaire, ce que je veux faire. Et là, c'est ce qui est dit des Macédoniens. Ils se sont donnés à Dieu, et du coup, étant possession de Dieu, ils ont vu dans le projet des apôtres quelque chose qui était dans la volonté de Dieu et se sont mis à leur disposition. Ils se sont mis à leur disposition parce que c'était là que l'action de Dieu, leur maître, se passait. Troisième raison pour la générosité, c'est d'être un chrétien complet. Les chrétiens de Corinthe sont présentés comme des chrétiens riches. Et Paul, au verset 7, dit tout ce qu'ils font de bien. Leur foi est exemplaire. Ils ont une vraie confiance en Dieu. Leur parole aussi, j'imagine que quand ils parlent, c'est pertinent, édifiant. On aime les inviter, les écouter. Ils sont riches en connaissances également, ils connaissent Dieu, ils connaissent l'enseignement. Mais tout ça, c'est pas que intellectuel, puisqu'ils sont aussi riches en zèle. Quand il faut des volontaires pour faire quelque chose, eh bien, on doit en trouver sans peine. Et ils sont riches en amour. Entre eux, c'est pas juste on se retrouve tous les dimanches parce qu'on a l'habitude. Entre eux, c'est un amour véritable qui les unit, un vrai souci les uns pour les autres. Ils sont riches dans ce qui est de la vie chrétienne. Ils aiment ça. Ils aiment exceller dans le service de Dieu. Mais Paul leur rappelle que la générosité aussi est une œuvre dans laquelle ils peuvent exceller. Pour être un chrétien complet, il faut aussi être généreux. Et il faut être généreux parce que c'est ainsi qu'a été Jésus-Christ. Paul le rappelle, Jésus ne devait rien, mais il s'est donné lui-même. Il était Dieu à côté du Père. Il est descendu sur terre, dans la souffrance de notre monde. Il a partagé cette souffrance de notre monde et il est allé jusqu'à souffrir lui-même personnellement en étant mis à mort. Paul écrit dans une autre lettre, celle aux Philippiens, en parlant de Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Voici la générosité de notre Maître, qui s'est donné lui-même pour que nous puissions être là ce matin. Ça paraît dérisoire. Mais il est venu pour que nous soyons réconciliés à Dieu et que nous puissions être là, être avec lui. Et comme il a été généreux, à nous aussi de suivre son exemple et de vivre la générosité. Dernière raison que donne Paul aux Corinthiens, c'est d'être conséquent et d'achever ce qu'ils ont commencé. On comprend là, en lisant ce qu'on a lu, que quand les Corinthiens ont entendu parler des difficultés de l'église de Jérusalem, eh bien, leur cœur s'est mis en mouvement. Ils se sont dit, ah non, c'est pas possible, il faut faire quelque chose pour cette église de Jérusalem. Et ils ont décidé de mettre en place cette collecte. Et a priori, c'est eux qui sont à l'origine. Mais là, un an plus tard, eh ben, ils n'ont pas fait grand-chose. Il y a d'autres églises qui leur ont emboîté le pas, comme ces Macédoniens dont nous avons lu l'exemple. Mais eux, ils n'ont pas fait grand-chose. Et Paul les invite à aller jusqu'au bout de ce qu'ils ont prévu. Parce que la vie chrétienne, c'est pas juste des bonnes idées, c'est pas juste des mouvements du cœur, des grandes impulsions, mais c'est aller au bout. Et maintenant, il faut concrétiser, parce que la solidarité, ce ne sont pas des promesses, mais ce sont des actes. Voilà. Voilà quatre raisons que je trouve dans ce texte, quatre arguments que Paul donne aux Corinthiens pour les inviter à la générosité. Le faire parce que d'autres le font, le faire parce que ils ne s'appartiennent plus, ils sont propriété de Dieu, le faire pour être un chrétien complet, et ça inclut la générosité, et le faire parce que il faut terminer ce qu'ils ont commencé. Quatre raisons donc, mais il leur donne un avertissement de prudence. Et je trouve que cette prudence est très présente dans ce passage. Il leur dit, ce n'est pas un ordre, au verset 8. Il leur dit, c'est un simple avis, au verset 10. Et il y a ce rappel de ne pas se mettre dans l'embarras. Je ne vous demande pas de donner au-delà de vos moyens, je ne vous demande pas de vous mettre dans la difficulté financière pour aider les autres. La générosité, ce n'est pas se dépouiller au point de manquer soi-même. Alors, est-ce que c'est là, pour Paul, une leçon qu'il tire de l'histoire de Jérusalem, qui ont été dans un partage qui les a dépouillés et qui fait qu'aujourd'hui ils sont dans la difficulté? Je ne sais pas. Mais je crois aussi qu'il y a une invitation. Une invitation à donner, en donnant de son superflu pour que d'autres soient soulagés, eh bien, Paul ouvre la réflexion chez ces chrétiens. Il les invite à se demander qu'est-ce qui est superflu et qu'est-ce qui est nécessaire. Dans ce que j'ai, dans ce que je vis, dans ce que je possède, qu'est-ce qui est vraiment nécessaire ? Et qu'est-ce qui est superflu? Et comment je vois ce que je possède, quand je vois comment mes frères vident, est-ce que ce que je garde, c'est nécessaire? Ou est-ce que c'est superflu? La générosité que demande Paul, ce n'est pas un impôt, une taxe qui est imposée, un pourcentage, tu donnes, voilà. Non, c'est un acte de générosité, une invitation à se rendre compte de ce que ma situation actuelle est privilégiée par rapport à celle que d'autres vivent, et une invitation avec joie à subvenir à leurs besoins, avec cette promesse merveilleuse de ce que, quand on donne comme ça, de bon cœur, c'est Dieu qui accepte ce don. C'est à Dieu lui-même que l'on donne. Ainsi donc, ce matin, c'est le culte de la mission. Et comme je le disais, la mission continue, les besoins continuent. Il y a là, pour nous aussi, une invitation à exercer notre générosité. Comment le faire? Comment participer? Alors, nous sommes très sollicités et chacun examine les sollicitations qu'il reçoit avec sagesse pour participer. Si vous vous informez sur ce qui se fait dans le milieu chrétien, je suis sûr que vous recevez des courriers, des mails qui proposent de très belles actions par différentes missions. Et il y a besoin de sagesse et de discernement pour être généreux comme ça individuellement. Mais nous voulons aussi vivre cette générosité en Église. Et en Église, nous l'avons mentionné quand nous avons accueilli de nouveaux membres, nous faisons partie d'une famille d'Église, une fédération. Et cette fédération a un avantage, c'est qu'elle nous permet d'avoir un organe missionnaire, une mission que nous soutenons quand on n'arriverait pas tout seul à envoyer des missionnaires, mais en se mettant avec d'autres églises de France et même d'Europe, on peut comme ça en envoyer. J'avais prévu une vidéo qui présente notre mission. Je pense que le culte a été déjà bien rempli et nous la joindrons au mail d'annonce. Vous pourrez la voir. C'est chouette de voir ce que cette mission fait, EBMI. Et notre Église soutient cette mission. Et comment participer? Eh bien, déjà, on peut s'inscrire dans ce que notre Église fait. Ce que notre Église fait, eh bien, c'est nous tous qui le faisons. Alors concrètement, nous avons une partie de notre budget annuel qui est destinée à être envoyée à la mission. Nous avons programmé d'être généreux en tant qu'Église. Et le conseil est fidèle dans les engagements pris en Assemblée Générale, dans les dons. Et pour que nous puissions être conséquents, ben nous aussi d'être conséquents dans les dons envers l'Église, pour que nous puissions tenir nos engagements de générosité. Donc, être fidèle en donnant à l'Église qui donne une partie de son budget pour la mission. Être fidèle également dans la prière. Si vous êtes régulier parmi nous, vous savez que nous prions toutes les semaines pour des familles de l'Église. Et parmi ces familles de l'Église, nous incluons Nathan Minard, notre missionnaire. Saisissons-nous du sujet, même si nous ne le connaissons pas personnellement. Souvenons-nous de lui qui, en notre nom, est au Cameroun, loin de sa famille. Et prions pour lui quand vient son tour, ou plus souvent, quand nous pensons à lui. Et puis soyons aussi fidèles dans l'intérêt que nous portons à cette mission. L'Église organise régulièrement des temps d'information, des communications au culte, des soirées missionnaires. Interrogeons-nous pour connaître ces missionnaires, pour connaître ce qu'ils font avec notre soutien et quelque part en notre nom. Et puis, nous pourrons faire plus, avoir plus d'intérêt, lire ce qu'ils écrivent dans leurs blogs, sur les sites internet, prier pour eux plus, même quand ce n'est pas leur semaine. Et pourquoi pas donner plus également, hein, il y a toujours la possibilité dans l'offrande de mettre en plus de son offrande une enveloppe écrite pour la mission EBMI. Et l'équipe trésorerie a l'habitude, elle fait suivre. On peut donner comme ça dans l'offrande ou on peut donner lorsqu'on est sollicité. Et aujourd'hui, on est doublement sollicité puisque à la fin du culte, ça a été mentionné, les flambeaux nous proposent d'acheter des gâteaux pour soutenir le sel qui est une autre mission non liée à l'Église, mais soyons généreux. Et puis, il y a aussi une boîte au fond de l'Église. Chantal nous en parlera dans une minute pour soutenir plus précisément, Loïs, une nouvelle missionnaire qui est au Cameroun. Et je donnerai la parole à Chantal. Mais pour le moment, je vais conclure. La Bible, notre Seigneur, son exemple et le passage que nous avons lu nous invitent à être généreux. À être généreux et en particulier à donner pour l'œuvre au loin. Pour la mission. Et les raisons que Paul souligne elles sont encore valables aujourd'hui. D'autres le font, d'autres chrétiens s'investissent là-dedans. Participons à ce mouvement pour changer les choses pour ceux qui en ont besoin. Nous appartenons à Dieu, comme les chrétiens, comme les Corinthiens ne s'appartenaient plus à eux-mêmes. C'est aussi ce que nous croyons, c'est aussi ce que nous chantons. Nous sommes à la disposition du Seigneur et ce que nous possédons également. Autre raison, être un chrétien complet. Nous sommes ici pour écouter sa parole, nous participons à des groupes de maison pour grandir toujours plus. Grandissons aussi en générosité. Et puis, cette invitation à achever ce que nous avons commencé. En tant qu'Église fédérée, nous envoyons des missionnaires ailleurs. Ne les laissons pas tomber une fois qu'ils sont loin. En guise d'encouragement, j'aimerais relire les versets 13 et 14 du chapitre 8 de la deuxième lettre aux Corinthiens. Il n'est pas question de vous réduire vous-même à l'extrémité pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement de suivre le principe de l'égalité. Dans la circonstance présente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. Amen.